Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le grand retour de la Russie au Moyen-Orient et la question kurde sont deux éléments majeurs de l'année écoulée dans la région. Voilà les principaux enseignements développés dans le dernier numéro de notre partenaire, la revue Moyen-Orient. Le magazine trimestriel qui passe également en revue l'état de santé de l'ensemble des pays de la région. Un atlas dans lequel nous avons choisi d'examiner d'un peu plus près, avec son rédacteur en chef Guillaume Fourmont, deux états, l'Iran et l'Algérie. Lab 619 en Tunisie, Samandal au Liban, Skefkef au Maroc. Voilà quelques titres de fanzines qui dénotent de la vitalité avec également le festival Cairo Comics en Égypte, de la bande dessinée dans le monde arabe. Un univers en plein renouveau depuis 2011, nous expliquera Enrique Claus, chercheur à l'Institut sur le Maghreb contemporain à Tunis.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Guillaume Fourmont.
Bonjour.
Rédacteur en chef de la revue trimestrielle Moyen-Orient, dont le dernier numéro est consacré au bilan géostratégique de l'année. Alors, en 2015, vous aviez choisi comme sous-titre « L'heure de Daesh ». Qu'en est-il cette année, Guillaume Fourmont ?
Alors, cette année, le sous-titre de la revue, c'est « Fuir la guerre ».
Alors, pour quelle raison ?
Pour une simple raison, c'est que la question migratoire a occupé la une des médias cette dernière année, la une des médias européens bien évidemment, mais aussi la une des médias au Liban, en Turquie, en Irak, puisque il faut jamais oublier que l'immense majorité des 4,5 millions de réfugiés syriens sont aujourd'hui réfugiés en Turquie, au Liban, et causent de véritables problèmes économiques, sociaux, politiques. C'est un défi extrêmement important que la région doit relever dans ce contexte de guerre en Syrie.
Alors l'article principal de la revue est signé Amit Bozarslan, qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Il pointe à la fois le cynisme et la misère de la raison géopolitique. Qu'est-ce qui lui permet d'écrire cela ?
Alors il écrit cela parce que le Moyen-Orient aujourd'hui est entré dans un cycle de violence extrêmement grave. Une violence matérielle et une violence immatérielle. Une violence matérielle, c'est bien évidemment des situations de guerre ouverte en Syrie, au Yémen, des conflits extrêmement graves en Libye, en Irak, bien évidemment, une violence terroriste très forte, et une violence immatérielle, puisque ce sont des populations soumises à une dictature de la pensée dans les régions soumises par l'organisation de l'État islamique, et bien évidemment des populations soumises à des conditions sanitaires extrêmement préoccupantes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, pourquoi il dit cynique ? C'est parce que dans cette situation, ce cadre, interviennent des acteurs qui, au nom de leur propre intérêt personnel, politique, vont agir. Pas forcément pour le bien des populations ni des pays d'ailleurs. La paix n'est peut-être pas la priorité de la communauté internationale et des acteurs internationaux en jeu. Mais la priorité, ce sont les intérêts de politique intérieure. On peut par exemple citer le cynisme de la Russie lorsqu'elle intervient militairement en Syrie aux côtés du régime de Bachar el-Assad.
Justement, cette intervention de la Russie en Syrie en septembre de l'année dernière, est-ce que c'est le fait marquant de cette année pour la région ?
Alors c'est un fait marquant puisque, outre la coalition internationale, la Russie décide unilatéralement d'intervenir en tant qu'acteur militaire et politique en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad. Jusqu'à présent, les acteurs étaient, disons, disséminés. On disait que le régime de Bachar avait l'aide du Hezbollah, de l'Iran, via des milices, des organisations, mais ce n'était pas un soutien officiel du gouvernement iranien, pour être précis. Là, aujourd'hui, la Russie décide d'intervenir militairement. Vladimir Poutine en fait une question personnelle. La Russie ne peut pas lâcher la Syrie pour des raisons exclusivement politiques, puisqu'elle veut faire pression sur la communauté internationale dans un contexte extrêmement difficile pour Moscou, puisque rappelons qu'il y a toujours la guerre en Ukraine et la Russie est soumise à des sanctions internationales très importantes. Donc c'est une manière pour la Russie de s'affirmer sur cette scène moyen-orientale où personne ne veut véritablement agir. Personne, j'inclus même les États-Unis ou des grandes puissances comme la France et le Royaume-Uni, qui ne veulent pas finalement s'empêtrer, même si Washington dit vouloir en finir avec l'État islamique avant le départ de Barack Obama, ce qui est très optimiste.
Mais est-ce que ce retour de la Russie trouble le jeu diplomatique dans la région ou au contraire, est-ce qu'il le clarifie ?
Il le clarifie dans la mesure où les puissances traditionnelles au Moyen-Orient, qu'on pensait être les États-Unis et la France, sont mises à l'écart. Aujourd'hui, la Russie affirme véritablement son poids principal pour ce qui est de la question syrienne. La question syrienne se résoudra en partie avec le poids important du Kremlin et donc de l'Iran, qui sont des partenaires essentiels dans cette crise, ce que jusqu'à présent des pays comme les États-Unis ou la France n'avaient pas compris. Donc d'une certaine façon, finalement, elle le clarifie, puisque elle met les choses très claires sur l'état de ce conflit.
Alors, l'autre élément marquant de cette année 2015-2016, Guillaume Fourmont, c'est la question kurde. Alors, de marginale et sympathique, elle semble être devenue aujourd'hui une question centrale. Pour quelle raison?
Alors, c'est une question centrale parce que, suite à la chute de Saddam Hussein en 2003, il était clair que le gouvernement autonome du Kurdistan irakien, basé à Erbil, se dirigeait vers une autonomie plus, souhaitant véritablement son indépendance. Aujourd'hui, cette situation est extrêmement instable à cause de la situation intérieure irakienne et à cause de la situation syrienne. Ce qui est certain, c'est que les acteurs kurdes sont essentiels dans le conflit syrien. On le voit encore aujourd'hui autour d'Alep et du corridor de Manbij, puisque les Kurdes réussissent à couper presque l'accès de l'organisation de l'État islamique à la frontière turque. Donc il y a véritablement un acteur kurde extrêmement important dans la lutte contre l'État islamique. Ceci dit, il ne faut pas non plus présenter les Kurdes comme un acteur unique face à la barbarie. Il ne faut pas mythifier le héros kurde. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Kurdes sont des groupes extrêmement divers et souvent opposés. N'oublions jamais la guerre civile qui a opposé les différents partis kurdes en Irak dans les années 90, et ces tensions, ces différends, sont encore latents aujourd'hui. Beaucoup de choses opposent les Kurdes de Syrie proches du PKK turc et puis les dirigeants kurdes de Souleymaniye ou d'Erbil, par exemple.
Guillaume Fourmont, ce numéro de Moyen-Orient est consacré aux différents pays de la région. Ce sont vos fiches pays. On ne peut pas tous les citer, évidemment. Alors, prenons-en deux, l'Algérie et l'Iran. Quel constat tirez-vous à leur propos?
Alors, ce sont deux pays très intéressants. Pourquoi? Puisque en juillet 2015, rappelons que la communauté internationale et l'Iran sont arrivés à un accord historique sur la question du nucléaire, signant le retour sur la scène internationale de l'Iran. Donc cela va prendre du temps avec la levée des sanctions internationales, mais la République islamique fait son grand retour sur la scène politique et surtout économique. Et donc là, il y a un véritable enjeu de l'avenir des relations avec l'Iran. Et puis l'Iran, d'un point de vue de politique intérieure, beaucoup de choses s'y passent. Le président Hassan Rouhani a le bénéfice politique avec les dernières élections législatives qu'il y a eu, puisque ses partisans ont remporté la majorité des sièges. Et puis surtout, une société extrêmement jeune et avide véritablement de changement. Que va-t-il se passer d'ici quelques années contre le diktat religieux par une génération qui, pour le dire franchement, en a assez de voir alimenter son quotidien avec des références islamiques. D'un autre côté, on a l'Algérie. C'est un pays intéressant, pourquoi? Parce qu'on est dans une période de transition politique fort avec un président, Abdelaziz Bouteflika, qui est absent. Ce dernier est extrêmement malade. Et une mise au pied des services secrets qui ont été rattachés directement à la présidence. Pour rappel, ils ont mis en retraite le dirigeant historique des services de renseignement et ces derniers ont été rattachés directement au pouvoir politique de la présidence. Et donc ça, en plus de quelques réformes ici et là, économiques et politiques, amène à dire que finalement beaucoup de choses ont changé et se passent en Algérie. Ce n'est pas un régime si sclérosé. Toutefois, c'est un pays extrêmement menacé à court terme en raison, bien évidemment, de son aspect rentier. Un pétrole à moins de $40, c'est quand même extrêmement risqué pour un pays comme l'Algérie, qui fait face à des contestations sociales ici et là, notamment dans le sud, qui sont extrêmement oubliées, mais dans le sud, il y a de grandes contestations contre l'exploitation du gaz de schiste, par exemple.
L'Algérie et l'Iran, donc deux fiches pays que l'on peut retrouver dans le dernier numéro de la revue trimestrielle Moyen-Orient, le numéro 31 qui paraît en kiosque cette semaine. Merci Guillaume Fourmont, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de cette revue Moyen-Orient.
Orient Hebdo sur RFI.
Le retour des collectifs hip-hop est l'une des facettes du renouveau artistique dans le rap mondial. Et Zomra en est sans aucun doute le porte-drapeau en Tunisie. Phénomène unique dans le pays, le groupe s'organise au sein d'un collectif regroupant plusieurs rappeurs ou beatmakers comme Castro, Japaman, Zoufri ou encore Bambusha. Un exemple de sa production avec Peace and War. لله الخلود من والكون يتمدد زيد شيطان موجود والخبائث تتعدد ألم تتجدد بنعري بتفدد تتهدد متشدد فوق داري فو دنيا دور you will pay فوق برشا people دي منقول in a way with your fucking joint explain your fucking bond احكي what you want now listen up هذا لم حياة تفقد برشا حكايات جوين وهي والطابلات بالمشتى بارولات في سوسيتي فشل فشل كملت قرايتي الكل كي تخرجت بقيت فيكس قاينت بعت لقيت طرزة وكي تبعت البي ام اكس لانا 666 مان بداوي الطبة تحبو الرياليتي باش ما نخسرش القبة ودرومي قص بيه طلعت اون بيبليك وعصبة لي كول الكاشي
Le collectif tunisien de hip-hop Zomra.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous rejoignons maintenant Enrique Clos à Tunis. Bonjour.
Bonjour.
Vous signez dans ce nouveau numéro de la revue Moyen-Orient un article très intéressant sur la bande dessinée arabe. Vous écrivez que les soulèvements populaires de 2011 ont favorisé l'émergence de pratiques culturelles nouvelles dans la musique ou les arts visuels. On connaît aussi le rôle tenu par les réseaux sociaux dans cette année charnière au Moyen-Orient. C'est donc, semble-t-il, la même chose pour la bande dessinée. Pourtant, Enrique Clos, il n'y avait pas vraiment de tradition en la matière. Comment était perçue la bande dessinée jusque-là ?
Alors c'est vrai que c'est une tradition assez récente. C'était un vecteur de propagande pour socialiser politiquement les plus jeunes générations, jusqu'à au moins l'avènement de la télévision ou au moins l'équipement des foyers en matériel pour recevoir la télévision.
Alors l'émergence de la bande dessinée, est-ce qu'il y avait une menace culturelle à conjurer, comme cela a pu être le cas par exemple en Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale ?
Alors oui, les réactions ont été assez protectionnistes hein, de l'invasion culturelle américaine. On a connu ça en France effectivement dès l'après-guerre hein, et dans le monde arabe, eh bien c'est le cheval de Troie culturel américain, si vous voulez, c'était le journal de Mickey. Et la réaction a consisté soit à contrôler les importations de ce type de publication, soit à créer des publications, des productions en BD qui soient endogènes avec des personnages, s'agissant de l'Égypte, des personnages empruntant à l'héritage culturel et historique égyptien. Donc on a comme ça la série de Ramsès avec ses aventures dans lesquelles les jeunes générations égyptiennes de l'époque pouvaient se retrouver.
Alors, quels sont les pays les plus ouverts à la bande dessinée dans la région, aussi bien le Moyen-Orient que le Maghreb ?
Concernant le Maghreb, sans conteste, c'est l'Algérie qui est le principal pôle d'influence hein, de ce type d'art, avec son festival de BD international. Pour le Mashrek, l'Égypte est l'un des principaux pôles, mais là on retrouve en fait les pôles d'influence culturelle, et c'est le cas également dans le cinéma, hein, pour l'Algérie comme pour l'Égypte, dans la littérature, dans les productions télévisuelles. Après, s'il y a une socialisation précoce à la bande dessinée, le fait qu'il n'y ait pas d'offre de bande dessinée pour adultes fait qu'il y a un décrochage dans la lecture, et qu'aujourd'hui, des jeunes générations, jeune génération des trentenaires, j'entends, profite des réseaux socio-numériques, donc Facebook, Twitter, Instagram, etc., et bien pour donner un nouveau souffle à la bande dessinée et pour créer des fanzines. Alors c'est moins des albums que des fanzines, on va appeler ça comme ça, réunissant des courtes histoires et proposant donc un produit à des fans de BD adultes qui, autrement, n'ont pas tellement d'offres en bande dessinée convenant à leur âge.
Quels sont généralement les thèmes abordés dans les bandes dessinées dans cette partie du monde arabe ?
Alors, s'agissant des fanzines, c'est souvent sur le ton de l'humour hein, que le discours est tenu. Et souvent, cela concerne des mésaventures qu'on peut tous avoir en tant qu'usager de la ville. C'est un art très urbain. où on va s'amuser de petites scènes dont on a été soit témoin, soit victime du quotidien. Donc c'est un petit peu, ce sont des histoires qui sont assez courtes, hein, sur 4-5 planches, je dirais. Donc c'est une mise en situation, mais qui rappelle le vécu de citadins des grands centres urbains de la région, alors au Caire ou à Tunis. Généralement, ça a trait au transport. C'est des situations assez cocasses qu'on peut vivre dans les transports, qu'on subit, hein, puisque les transports dans cette partie du monde sont assez difficiles. Mais les auteurs ont créé quelque chose de drôle, de cocasse.
Et la politique ou la religion, est-ce qu'on les aborde, ces questions?
Alors, la religion, pas du tout. C'est une question qui est assez éludée, je dois dire. Enfin, là, je parle vraiment en généralité. On peut citer des exceptions. Je pense notamment au fanzine libanais Samandal, qui a été poursuivi récemment et condamné à verser une forte amende à l'État libanais pour avoir publié des petites histoires mettant en scène des expressions populaires faisant intervenir la religion. Et donc, une bédéiste a reproduit, enfin, en tous les cas, dessiné des petits bonshommes qui ressemblaient soit à des imams, soit à des prêtres. Et je crois que c'est le Conseil catholique qui s'est senti offensé et qui a réagi assez fortement. Mais pour le reste, non, c'est vrai que la religion est souvent, non pas ignorée, mais on sent bien que c'est un sujet que les bédéistes n'osent pas trop aborder. Concernant la politique, c'est pas frontal. Il peut y avoir des éléments un petit peu frondeurs, mais c'est jamais une BD frontalement politique, hein. C'est souvent sur le mode de l'humour, encore une fois, donc c'est lié aussi à la caricature. D'ailleurs, bon nombre de bédéistes sont également caricaturistes pour les grands journaux. Et on ne peut pas dire que ce soit frontal. Ça serait aussi aller contre l'avis même des bédéistes, hein, qui estiment qu'ils sont plutôt dans une forme artistique et non pas dans une forme de discours politique. Si ça parle de politique, ça serait plutôt de politique dans une vision disons, qui part du peuple. Hein. C'est jamais à partir des instances, c'est plutôt le vécu du peuple, par exemple, par rapport aux griefs quotidiens qu'on peut connaître en raison de manquements dans les politiques publiques. Je parlais des transports tout à l'heure. Eh bien, on s'en accommode et on en rit. Donc voilà, ouais, c'est pas frontal, si vous voulez, et ni idéologique surtout.
Et parlons de la langue employée dans ces albums, publiés aussi bien au Maroc que dans les pays du Golfe, ou au Liban ou en Égypte. C'est l'arabe qui est employé ?
Alors, c'est l'arabe vernaculaire, hein, c'est l'arabe kazaoui, s'agissant du fanzine Skefkef de Casablanca. C'est l'arabe égyptien pour les kérotes de Tuktuk. C'est le libanais pour Samandal. Donc, c'est toujours un ancrage national, voire au niveau de la ville. Hein, à nouveau, les Marocains sont kazaouis et ils le revendiquent et ils s'estiment en exil dès qu'ils quittent Casablanca. Donc voilà, c'est en cela que ça doit répondre aussi à des besoins identitaires. Plutôt que de lire de l'arabe classique un peu rigide et spécifique au discours politique précisément, eh bien là c'est une langue beaucoup plus fluide, beaucoup plus quotidienne et dans laquelle on trouve de nombreux jeux de mots qui est employé. Et encore une fois, moi, je pense vraiment que ça répond, si vous voulez, si ces fanzines avaient été publiées en arabe classique, le lectorat, il aurait été possible d'exporter ces fanzines au-delà des frontières du pays où elles sont produites. Or, là, c'est vraiment un lectorat endogène qui est visé, et c'est vraiment pour que se reconnaissent dans ces productions un lectorat qui est généralement composé des gens de sa propre génération.
Merci Enrique Claus, chercheur à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Vous étiez en ligne avec nous depuis Tunis et je renvoie à votre article dans la revue Moyen-Orient qui sort actuellement en kiosque.
Merci à vous.
À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons les conséquences induites par la découverte d'importants gisements de gaz naturel en Méditerranée orientale. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal d'information.